cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous pour la prochaine heure. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul et je ne suis pas avec un invité comme à l'habitude, mais plutôt, c'est l'épisode dans le mois où on est quatre et où on lit des BD et où on vous en parle. Alors, par le 4, eh bien, j'entends, outre moi-même, Jérôme Vermette, bonjour.
Salut Raymond.
Édouard Tremblay, bonjour.
Salut Raymond, salut à tes auditeurs.
Marco Duchesne, bonjour.
Bien le bonsoir.
Alors, mes libraires en résidence préférés, donc de Pantoute et de La Liberté. Et eh bien, comme d'habitude, je rappelle le concept, en fait, si par un pur hasard, c'est la première fois que vous écoutez La Vie en BD, eh bien, à chaque mois, on se réunit, on est quatre, et plutôt que de nous battre, eh bien, on partage des lectures. Et donc, une fois par mois, c'est un de nous qui choisit quatre titres que les autres doivent lire. Et on en discute par la suite, on échange autour de ces titres-là. Donc, c'est une belle opportunité pour comparer différentes perspectives autour d'un même album, c'est des liens entre les ouvrages à l'étude ou autres. Et question d'ajouter un peu à l'exercice, bien évidemment, les albums ne sont pas choisis au hasard. Ils sont rattachés à une thématique, à un cadre. Et ben, ce mois-ci, c'est Édouard qui a fait la sélection. Et Édouard s'est dit, bien évidemment, on fait de la radio, on a une balado qui parle de bande dessinée. Alors, faisons une sélection qui est axée 100% sur les aspects visuels de la bande dessinée, avec donc une thématique, et je me moque gentiment, mais on aura un beau défi, évidemment, d'expliciter les magnifiques noirs et blancs que tu nous as fait découvrir au fil de ces quatre lectures. Je vais les mentionner rapidement, je vais mentionner le thème, et par la suite, bien, je laisserai Édouard nous expliquer pourquoi on a lu ces titres-là, pourquoi il a choisi ces titres-là plutôt que d'autres, et ensuite, bien, on en discutera au fil de l'émission. Alors donc, le thème pour ce 26 mars 2021, c'est « Saturation, ombre, lumière et contre-jour ». Et donc, on a lu quatre titres qui exploitent en fait le potentiel ou des potentiels du noir et blanc. Donc, « Sin City », tome 1 de « Hard Goodbye » de Frank Miller chez Rackham en version française. « Foulou », l'intégrale, donc d'Eduardo Risso et Carlos Trio chez Glénat en version française également. « Billy Wilde », autre intégrale, cette fois de Guillaume Griffon et Seca qu'on retrouve chez Aquileos. Et enfin, le Batman Ninja de Masato Iza, qui est disponible en version française chez Kana. Alors, quatre titres qu'on a découverts, qu'on a lus. Et Édouard, pourquoi nous avais-tu proposé, en lien avec ton thème, ces quatre titres?
Eh bien, d'emblée, vous le savez, les copains, j'aime toujours vous foutre en boîte hein, et vous proposer des choses qui vous secouent dans vos fondements. Je me suis dit, oui, hein, parlons de noir et blanc, mais parlons de noir et blanc, justement, pourquoi saturation? Ben pour ça, parce que c'est un noir et blanc qui, dans chacune de ces BD-là, hein, est tranché. Il y a très peu ou pas du tout de gris et c'est volontaire. Parce que oui, bien sûr, ça nous force hein, à parler du dessin, mais au-delà du dessin aussi, et je pense que c'est un peu le thème récurrent qui sous-entendait mes choix, c'est aussi l'idée, en fait, que ce noir et blanc-là tranché dans l'image est, à mon avis, le reflet d'un manichéisme qui est présent également dans les personnages, dans les thématiques de ces BD-là. La première, en fait, Billy Wilde, que j'ai choisi, en fait, qui est paru tout récemment, que j'ai accroché presque le jour même où j'ai choisi mon thème, parce qu'il le servait très, très bien. Justement, en plus, bon, une histoire de western, on y ajoute des petits côtés, disons, diaboliques et surnaturels. Avec le dessin en plus qui m'a beaucoup plu. Disons qu'il y avait beaucoup de raisons qui se conjuguaient pour faire de Billy Wilde comme ça mon premier choix, au-delà justement de ce qu'on pourra en expliciter. The Hard Goodbye de Miller. Hein. Miller, c'est quelque chose, je veux dire, qui ne trippe pas ou n'a pas trippé un jour sur au moins une œuvre de Frank Miller, et surtout à l'époque de Sin City, j'avoue que moi, personnellement, ça a été en plus une des premières portes ouvertes sur ce que je pourrais appeler l'autre BD. Là, quand tu as lu les Astérix, les Tintins, les Spirou, puis d'un coup, tu tombes sur The Hard Goodbye, tu te rends compte qu'il y a une autre BD que tu que tu es ailleurs, en fait, tout d'un coup. Et bon, en tout cas, c'est un peu aussi pour ça, au-delà, bien sûr, encore une fois, des thématiques de Sin City et de Frank Miller, tout court, que j'aime et que je suis moi-même depuis des années. Foulou, ben, idem, je dirais, Eduardo Risso est un gars pour qui j'ai une énorme. Énorme admiration que j'ai eu découvert avec ses travaux qu'il a fait avec, avec Brian Azzarello. Il faut bien avouer que la rencontre entre les deux a donné des BD absolument exceptionnels, à mon avis. Mais le fait est que Risso, qui est quand même un vieux routier, on s'entend, a eu aussi quelques fort heureuses collaborations avec Carlos Trillo. Souvent dans des histoires un peu plus courtes, quelques histoires sombres, gothiques, vraiment de courte haleine, mais également, il a commis justement avec Trio cette magnifique histoire Foulou qui va rappeler un peu à Targoul de Bruno, va rappeler bon, certains autres titres comme ça. Teinté justement bon, de tout l'esprit des Caraïbes, un peu de magie, de beaucoup d'hommerie et d'obsession. Dans l'ensemble, moi, quelque chose qui m'avait justement, au-delà du dessin de Risso, beaucoup parlé, beaucoup interpellé. Et finalement, pour Jérôme, entre autres, je le sais bien, Batman Ninja. Oui, une drôle de poutine, on pourra en discuter. Un drôle de mélange, mais à mon avis, malgré tout, que moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé et illustré aussi par un mangaka qui a un trait qui est bien singulier, qui est bien unique dans le domaine et qui, encore une fois, par ses aplats, par son côté très, très, très pur, servait bien, je pense, le propos de ce soir, bon, c'est-à-dire Masato Issa. Et tout ça, parlant de Japon, pour m'amener, oui, l'intro, excusez-moi, est comique un peu ce soir, à justement ce point d'ancrage. Donc, pourquoi, oui, la saturation, pourquoi l'ombre et la lumière, au-delà de, disons, ma propre nature très, très tranchée, très portée sur les extrêmes, eh bien, ça vient aussi du fait, justement, d'un auteur japonais que j'aime bien, qui s'appelle Junichiro Tanizaki, et qui a lui-même consacré une partie de sa carrière, justement, littéraire, à explorer sous toutes leurs formes le contraste, justement, entre l'ombre et la lumière, et tout ce que ça cache, tout ce que ça révèle, tout ce que ça impose. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas in extenso y aller avec la BD, où, justement, on a, par le truchement de la fiction et du dessin, la possibilité de magnifier, à mon avis, ce manichéisme-là et de le porter au nu, si je peux me permettre. Donc voilà, ben, je vous laisse vous arranger avec ça.
Le star va, là, c'est fini. Là.
Ouais, moi, ma part est faite, là.
Et la question, c'est par lequel on se lance? Est-ce qu'on commence par l'éléphant dans la pièce? Est-ce qu'on s'en va avec Sin City? Est-ce qu'on s'en va avec Foulou? Est-ce qu'on s'en va avec Billy Wilde? Évidemment, ben, peut-être à la limite, en fait, peut-être lançons-nous avec un peu d'évidence, parce que quand tu arrives avec une thématique comme saturation, comme les noirs et blancs, dans la culture populaire, celui qui a le plus transparu, c'est Sin City, dans le fond,
Tout à
qui est
fait.
probablement une adaptation ou parce que, dans le fond, tu disais tantôt de l'importance du noir et blanc, le manichéisme, l'impact que ça a au-delà de simplement les aspects esthétiques. Puis dans les choix d'adaptation, on l'avait vu aussi, Miller, avec Rodriguez, qui a travaillé un peu là-dessus. Mais dans le fond, on choisit de garder ces noirs et blancs-là tellement ils étaient intrinsèques à l'univers de l'album, tellement, dans le fond, on ne peut pas avoir de Sin City en dehors de ce manichéisme-là, en dehors de cette esthétique-là. Euh,
C'est inévitable.
et, euh, et, et quand on relit The Hard Goodbye après avoir regardé les films, c'est fou à quel point, dans le fond, il y a une fusion qui s'est faite, si on peut dire, entre les deux interprétations, entre les deux médiums, où les voix, l'ambiance, la musique viennent perméabiliser la lecture et le regard qu'on a sur la BD, indépendamment du regard qu'on en avait avant d'avoir passé par le film.
À croire que le noir et blanc de Sin City est diégétique, c'est-à-dire que la ville est vraiment aussi tranchée que ça, tellement ça colle à l'ambiance de cette ville-là, à la fois poisseuse et est malsaine, tu sais, ni plus ni moins. C'est pas un endroit où on voudrait vivre, d'une certaine façon, malgré le fait que le trait de Frank Miller, qui est à son top là, dans cet album-là, là, avouons-le, là, honnêtement, ben Miller, moi, de toute façon, je pense que c'est un des auteurs BD dont la progression en termes de dessin, au moins, est la plus fascinante à voir aller de son époque Marvel jusqu'à maintenant. Là. Il a essayé un nombre incalculable d'affaires. Il n'y a personne qui peut... On peut lui reprocher certaines affaires. Parfois, peut-être son côté réactionnaire qu'il a déjà eu à une certaine époque. On ne peut pas lui reprocher de reproduire constamment la même formule au point de vue graphique. Et définitivement, Art Goodbye, est ce que je disais à Raymond cette semaine, moi, j'avais découvert Sin City via le film. C'est toi qui m'as amené à le lire, malgré tout, tu sais, malgré le fait que ça a pris du temps. Puis, honnêtement, au niveau graphique, c'est définitivement un de ses meilleurs travaux, là, je trouve, là, personnellement. Là, même que qu'il soit en couleur, ça gâcherait tout, je trouve, parce que l'ambiance noir et blanc n'est pas gratuit. Le blanc noir n'est pas gratuit dans cet album-là, du tout, du tout, du tout. Quand tu parles de manichéisme, je pense que pour cet univers-là, c'est vrai, hein, c'est un univers qui est... on est bon ou on ne l'est pas. Moi-même, je dirais... tout le monde est un peu plus mauvais, mais jamais totalement bon, tellement c'est dark. Là je vois Cramo, il a envie de dire quelque chose.
Non, mais j'allais renchérir, en fait, ce que tu disais, le choix de noir et blanc n'est pas gratuit, puis j'empilais là-dessus, puis je vais rempiler, en fait, parce que, tu sais, je veux dire, en bande dessinée, tout est choix, tout sert le narratif. Puis si tu fais des choix visuels parce que tu essaies de mettre du concept, parce que, mais c'est là que ça ne marche pas, c'est là qu'il y a quelque chose qui décroche, dans le fond, entre les deux. Et dans Sin City, ben, on voit à quel point justement c'est pas purement un choix esthétique, c'est un choix narratif d'abord et avant tout, d'aller vers ces couleurs-là, d'aller vers ces organisations-là. Et tu le dis, dans le fond, en couleur, ça ne marcherait pas parce que le choix, en fait, non, ça ne marcherait pas. Je t'empêche de te dédire. C'est parce que, dans le fond, c'est intrinsèque, c'est imbriqué, c'est fait pour être comme ça.
En fait, pour aller plus loin, parce que cette histoire-là de The Hard Goodbye est somme toute plutôt étouffante. Hein? Le type qui n'est pas beau du tout, qui a une sale gueule, mais qui est un survivant dans l'univers de Sin City, littéralement, se fait faire une machination qu'il essaie de défaire. Il y a quelqu'un qui a peut-être tenté de le tuer. Tout ça. Et ce que j'ai trouvé fascinant dans cette histoire qui est lourde, là, le fait d'avoir mis justement le noir et blanc a permis à Miller de faire passer l'action d'une façon qui est jamais lourde. Il fait des grands aplats sans remplir de traits. Les pages, les planches respirent malgré tout, même si on est à Sin City, qu'on sent l'humidité poisseuse de la place, les odeurs presque tellement c'est fort. Des fois, il fait du négatif aussi. Hein, c'est quasiment tout le temps la nuit à Sin City. C'était pareil dans le film d'ailleurs. Des fois, c'est du négatif, ce qui devrait être noir et blanc et inversement. L'utilisation du noir et blanc, c'est comme tu disais, si on l'avait mis en couleur, non seulement ça aurait changé l'atmosphère, mais ça aurait probablement également alourdi ces planches-là qui sont juste magnifiques dans cette ouverture-là. C'est là le défi, là, comme tu disais, de parler de cet album-là sans pouvoir le montrer. C'est assez particulier parce qu'il est très, très, très visuel comme bande dessinée. C'est très visuel.
En fait, il faut aller à la source pour ça. À la source, Frank Miller, il s'inspire et je pense que c'est voulu et du fait que ça soit du fait que ce que ça raconte et du fait que ça soit en noir et blanc, Miller s'inspire du roman noir des années 40. Le roman policier à cette époque-là n'est pas un roman policier, c'est du roman noir de Hard Goodbye. Évidemment, fait référence au roman de Chandler de Long Goodbye, mais fait aussi référence à Sam Spade, ce détective fétiche de Chandler et de cette époque-là, aussi de Dashiell Hammett, aussi une époque des années 40 où le cinéma est en noir et blanc, où ces histoires-là de détectives privés se passaient surtout la nuit, et des histoires où aussi les personnages avaient leur part d'ombre et de lumière, ou très peu de lumière. Frank Miller s'en sert, se rend cet hommage-là par la narration, c'est-à-dire que le personnage nous le raconte en voix off, comme le faisait Chandler ou Ahmet quand il racontait l'histoire. C'est souvent Sam Spade, il racontait ses trucs au fur et à mesure que lui arrivait, il racontait les flashbacks, et surtout dans ces espèces d'enquêtes sur un événement, un meurtre, une disparition, mais où chaque personnage qui rentrait en scène venait compliquer l'histoire ou venait twister l'histoire. C'est ça un peu Frank Miller dans cette série de Sin City, cet hommage qu'il rend là. Et son noir et blanc inversé, moi, les scènes de pluie sont hallucinantes parce que
magnifique.
On est habitué à un noir et blanc où la pluie est d'une certaine façon, et là, il l'inverse. Les scènes où Marv se déplace dans la pluie, ils sont hallucinants. Et dès le premier tome, ça marquait. Moi, je me rappelle à l'époque, le noir et blanc, c'était Hugo Pratt qui l'avait installé avec Gomez. Cette époque-là, des Européens qui le maîtrisaient parfaitement et tout. Et lui est arrivé et ne voulant pas faire la même chose, a comme travaillé cet aspect-là aussi, d'inverser certaines choses. Ce qui doit être dans l'ombre est plutôt blanc et lumineux, et l'autre, un peu comme les histoires qu'il raconte. Et je pense que, à mon avis, c'est un des plus beaux hommages qui s'est fait sur cette littérature-là du roman noir à cette époque-là.
Oui. Et puis, tu vois, tu me fais penser à la pluie que tu nommes. Effectivement, c'est pas évident. Déjà, en partant, c'est un des défis des dessinateurs de rendre la pluie puis que l'image soit encore lisible. Il l'a réussi très bien. Puis, bon, ton décor m'y fait un peu penser, mais on sait qu'il a été très influencé par Will Eisner. Puis, voilà. Puis il s'en cache pas, il le dit régulièrement, puis ils se connaissaient, les deux. Là.
Ils ont même Miller a interviewé.
Oui, effectivement.
Eisner, pendant quelques jours. Il a passé des journées. Will Eisner, ça a toujours été son idole.
Mais... Il le cite fréquemment depuis Daredevil, d'ailleurs. Mais rendu là, il s'en est un peu affranchi, comme pour montrer, j'ai réussi à faire ça maintenant. C'est en copiant Eisner, mais là, je suis rendu moi-même. Il a trouvé son style beaucoup plus fermement que quand il a commencé dans ses années Marvel, par exemple.
Et de toute façon, la couleur pour Miller, peut-être qu'il avait conscience que pour lui, la couleur... Bon, dans ce cas-ci, on parle du noir et blanc parce que ça raconte et pourquoi ça le raconte et d'où viennent les influences. Mais pour Miller, la couleur, c'est... À peu près dans toutes ses œuvres, en tout cas en couleur, c'est jamais lui qui a fait la couleur. Ça a toujours été Lindsay Barzell, en tout cas. C'est une femme qui faisait ses couleurs pour ce qui est de Daredevil, les one-shots qu'il avait faites, ou encore 300. Et ça a jamais été lui qui a fait la couleur. Alors pour lui, d'après moi, cette maîtrise du noir et blanc-là... lui était beaucoup plus naturel, et le travail qu'il avait fait sur la narration avec du temps de Marvel, ce travail de la narration, maintenant, quand tu arrives à Sin City, évidemment, là, le travail, il joue avec la couleur. En fait, c'était aussi pour moderniser aussi, tu peux rendre hommage à un genre comme le roman noir et tout, mais quand tu arrives le temps de le montrer à un public qui ont aucune idée de qui est Chandler, aucune idée de qui est Achille Hammett. Alors là, il faut que tu le modernises pour attirer les gens. Et puis tu
deviens la référence contemporaine, d'une certaine façon. Miller s'est imposé comme une référence à l'égal de ceux pour qui était pour lui une référence, dans le fond, pour une génération qui, par le truchement de Miller, va aller découvrir après ça les artistes qui l'ont influencé, qui l'ont marqué. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on découvre aussi beaucoup, je vais passer la parole à Édouard. Je vois ta main levée.
Mais ce qui est d'autant plus intéressant dans ce cas-ci, c'est que, bon, au-delà aussi, oui, de Will Eisner, qui est justement un des grands maîtres à penser de Frank Miller, Frank Miller s'est réclamé également de l'œuvre de Kazuo Koike et Goseki Kojima. Les deux grands maîtres derrière le somptueux Lone Wolf and Cub. un des grands mangas, s'il en est. Et ce qui est d'autant plus, comme je disais, intéressant, parce que le lien étant que de Miller à Masato Issa, avec, qui est derrière Batman Ninja, est aussi quelqu'un qui s'est réclamé, justement. Bon, ils sont beaucoup parce que, justement, Lone Wolf and Cub, un peu comme l'œuvre de Tezuka, hein, est quelque chose qui a inspiré et qui a pavé la voie à un paquet de grands noms du manga, mais aussi qui a débordé, justement, même du côté, justement, américain.
Des artistes universels, ça.
Tout à fait, et c'est comme dans le domaine, justement, du cinéma, je veux dire, la BD japonaise et la BD américaine se sont nourries l'une et l'autre comme ça, d'une manière absolument extraordinaire et sublime, si bien qu'on, quand on se met à gratter un peu, bon, on se rend compte qu'un pourrait pas exister sans l'autre. Et c'est ce qui est d'autant plus drôle, parce que justement, là, dans l'histoire, on se retrouve avec un des icônes de la culture pop américaine, Batman, qui, 80 ans de Batman, mais là, plongé dans probablement ce qu'il y a de plus typique shonen, manga éclaté. Écoutez, il y a tout là, le Japon de l'ère Sengoku, où on va justement s'amuser à remplacer les seigneurs de guerre par les grands méchants de l'univers de Batman, les mechas qui sont eux aussi, les châteaux qui deviennent des robots. C'est central dans l'univers du manga, et ça depuis toujours. Souvenez-vous de Goldorak, souvenez-vous de votre enfance, c'était là également. Et donc, porté justement par, comme je disais au départ, le trait assez particulier dans l'univers du manga de Masato, oui. Et ça, eh bien, on se retrouve avec justement un univers dont je trouve justement le point de vue un très amusant, mais d'autant plus amusant qu'on a justement dans un univers qui est, lui, parfaitement gris. Le Japon, je disais, des concepts de bien et de mal, comme on les conçoit, nous, ici, avec notre background judéo-chrétien, oubliez ça, là. Ça n'a rien à voir, là. Ça, c'est purement occidental. Mais là, on les transpose par le truchement de Batman et du Joker, qui ont toujours été les deux bouts du spectre, à quelque part, à mon avis.
Puis l'univers de Batman est probablement le moins manichéen de tout DC, en plus. Fait que ça se
fait bien, là. Mais quand même, tu sais, reste qu'il y a quand même cette opposition classique entre Batman et le Joker, qui se transpose là et qui donne à cet univers-là, justement, son caractère, peut-être plus tranché qu'il aurait pu l'être, surtout à l'époque du Sengoku, l'époque des guerres féodales du Japon, où tout le monde se trahissait, se renversait joyeusement.
Mais, cela dit, d'un point de vue visuel, en fait, si on compare avec ceux dont on va parler plus tard, que ce soit Fulu, Billy White ou Sin City, c'est celui qui est le moins justement tranché, noir et blanc. On est plus dans des nuances de gris. Il y a des tonalités. Et pour moi, c'est le genre de BD qui montre à quel point, ça peut être éclatant, ça peut être étincelant presque, tu sais, je dirais, tellement d'affaires qui se passent. On perçoit presque une couleur en arrière du noir et blanc, tellement ça en crache, là, je veux dire. Mais, c'est particulier comme lecture.
C'est un défi pour les auteurs japonais, parce que Edouard pourra me corriger si, mais la majorité de ces œuvres-là paraissent en noir et blanc, en tout cas, nous arrivent en noir et blanc. Là, la majorité travaille en noir et blanc. Pour les magazines et tout, il y a très peu de versions couleur, si mon souvenir est bon.
Trop cher à produire.
Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, le défi est quand même là. Chaque auteur, tu lui donnes, on dirait la course de NASCAR, là, vous avez tout le même char avec lui. Il faut juste
assurer. Oui, parce qu'on parlait tantôt, d'un choix artistique par rapport à Sin City, par rapport aux autres aussi dont on va parler. C'est une décision de l'auteur d'aller vers le noir et blanc. Dans le cas de Batman Ninja, c'est un peu une obligation. Et donc, dans le fond, on sait qu'on travaille côte à côte avec d'autres qui vont passer des années à maîtriser un médium. Donc, il faut trouver sa couleur à l'intérieur de cette obligation-là. Façons de se démarquer.
Et le plus drôle, en discutant comme ça, me vient une évidence. C'est-à-dire que un Japonais quelconque, qui n'est pas quelconque pour Edouard, vu qu'il le connaît, il le cite depuis tantôt, mais cet auteur-là décide d'adapter Batman. Bon, il va le faire en noir et blanc, vu que c'est comme un des trucs. Et Et on se dit, ah oui, adapter Batman en noir et blanc, effectivement, ça fait. Mais Batman a toujours été en couleur. Ouais. Et c'est ça. Et il y a récemment, depuis une quinzaine d'années, DC a lancé de petits. A fait des anthologies avec des auteurs, carte blanche à des auteurs qui le fassent en noir et blanc, mais c'est très récent, là. Et c'est ça qui est un peu paradoxal dans la version occidentale et la version orientale, c'est-à-dire 80 ans de Batman, mais toujours en couleur. Et c'est depuis 15 ans que DC réalise, oh oui, le personnage est bien en noir et blanc. Et que les Japonais, eux, sont pognés avec, tu sais, de toute façon. Effectivement, mais le travail, c'est comme pour eux, il y a une espèce de réflexion qui se fait sans vraiment réfléchir. Ils adaptent ce personnage qui, effectivement, en noir et blanc.
Il y a un truc, par exemple, qui reste très manga, hein, malgré le fait que le personnage est occidental. Tu sais, c'est un personnage d'une création américaine. La BD reste très manga dans son esprit, parce que même, je dirais, quand je l'ai commencé, là, je vais être franc, Edouard, là, au début, j'étais là, mon Dieu, mais ce scénario-là, c'est du gros n'importe quoi. Tu sais, le premier chapitre, là, on dirait que l'auteur veut se débarrasser très rapidement de Gotham City. Puis là, tu as une espèce de who's-who de l'univers de Batman. Puis ils sont tous là. Tu sais, les plus importants, le même Nightwing, Red Robin, tout ça, ils sont tous là. Puis, à la fin du premier chapitre, go, enfin, là, ça devient important. Là, c'est le Japon. Puis là, on dirait qu'il prend plus son temps. Il met en place ses éléments. Et ces éléments qui sont pour lui importants, tu sais, puis c'est normal. Mais j'ai remarqué à la lecture, malgré un peu l'aspect un peu... Roublard fêteur du projet, tu sais, comme tu le disais tantôt, les châteaux là, qui deviennent des... bon, moi, je suis tout le temps pris avec mon espèce de terme qui vient de Pacific Rim, là, de Jaeger, là, qui s'y combattent, là, des genres de Goldorak, bon, tout ça. Malgré ça, il y a un aspect, moi, qui m'a toujours fasciné dans la culture populaire japonaise. Puis quand je dis culture populaire, je parle des films, des bandes dessinées, tout ça, c'est à quel point... contrairement aux Occidentaux, les Japonais semblent connectés avec leur tradition. Ils connaissent leur histoire, ils connaissent parfaitement leurs codes qui proviennent des traditions. Et pour ces auteurs-là, tu n'as pas besoin de les expliquer. Puis là, je ne parle pas juste de la bande dessinée, à peu près tout ce qui vient du Japon. Puis je suis un amateur de films d'horreur, tout le monde le sait. Les films japonais exploitent aussi ces aspects-là. Pour nous, occidentaux, nous sidère totalement, on a de la misère à s'y accrocher. Puis c'est pareil, là-dedans, il choisit une époque historique, son lectorat le sait probablement spontanément de quoi il parle, alors que nous, c'est autre chose, puis on n'est probablement même pas capable de faire le même exploit que les Japonais qui lisent ce genre d'ouvrage-là.
Ben, je t'avoue que c'est d'autant plus intéressant, en fait, que justement, moi, comme j'ai quelques notions du Japon, je voyais justement un peu comme un Japonais, ah, OK, oui, il a mis Two-Face là, c'est tel seigneur de guerre, OK, il a mis le pingouin là, il représente, le tigre de Kai, je ne rentrerai pas dans les détails, mais...
ils ne sont pas gratuits, c'est ça que tu veux dire.
Non, ils ne sont pas gratuits, mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est justement pour un Japonais, ça va de soi, mais c'est justement la Batman Family qu'il faut que tu prennes la peine de montrer puis d'expliciter, parce que pour eux, au-delà de Batman puis du Joker, c'est peut-être pas aussi clair que pour nous. Là. C'est eux qu'il faut que tu mettes en place pour ton lectorat japonais.
On est-tu si loin de ça quand même? Tu sais, je veux dire, Batman a bien réfléchi. Je ne connais pas beaucoup l'histoire du Japon et des samouraïs, mais ce que j'en ai glané quelques éléments ici et là. Les Ronin, c'était ces samouraïs sans maître qui étaient au service de la justice et tout. Mais Batman, c'est ça. C'est c'est un Ronin qui, à un moment donné, voyant que la justice et la police ne suffisaient pas, a décidé par lui-même de vraiment d'agir. Alors, c'est un peu un Ronin, en quelque part. Je pense que au-delà du fait que c'est deux cultures différentes, mais c'est pas si loin que ça, d'après moi. Édouard, lui, il les voit, là, il peut voir la facilité avec laquelle, mais dans notre culture, les méchants puis les situations de super-héros et de héros, l'héroïsme, quand même... on n'est pas si loin que ça, d'après moi.
Et pour compléter un peu sur ce que, justement, ce que Marco disait, en effet, le pont n'est pas très loin entre, justement, entre Batman et le Japon, entre l'univers, même justement, parce que, encore une fois, je reviens à cette idée qu'amenait Tanizaki du contraste entre l'ombre et la lumière, parce que c'est le noir et blanc, parce que Batman, il y a ce contraste, ce combat même à l'intérieur de lui-même aussi. Et parce que, comme justement dans Tanizaki, l'ombre et la lumière, comme je disais aussi, c'est ce qui révèle la nature, c'est ce qui révèle la vérité qu'il y a dans les êtres, dans ce qu'ils sont. C'est pourquoi j'enchaîne avec Foulou également de Rissot et Trilo, parce que toute l'histoire, je pense, de Foulou, qui est une, appelons-le une magnifique tragédie, tourne autour de ça, d'abord de sa beauté extraordinaire, qui est pour elle peut-être la pire des malédictions, mais qui en même temps va être la façon dont elle va, parce que bon, Foulou est une esclave, et donc, vous l'aurez compris, dont la beauté attise les convoitises de tous ceux qui posent le regard sur elle, que ce soit de concupiscence ou de d'envie ou de jalousie par rapport à elle. Et donc, justement, elle a, Foulou, cette chance et cette malchance de révéler l'âme des gens qui tout d'un coup, à son contact, prennent leur vrai visage pour leur perte, pour la plupart, mais tout ça étant dans cette espèce de vaste quête de liberté qu'elle va avoir. Je trouve qu'il y a quelque chose, justement, de fondamentalement Tanizaki là-dedans. Si vous avez la chance de lire un jour l'histoire du sire de Musashi, c'est tout ça, en fait, la vraie nature d'un être qui se cache et qui se révèle. C'est un peu la même chose, en fait.
Et moi, ce que je trouve fascinant quand on aborde des personnages comme ça, je veux dire, c'est un défi d'un point de vue scénaristique qu'on donne au dessinateur. T'sais, on dit, dans le fond, il va avoir un personnage, ce personnage-là va être central dans ton histoire, et ça va être une créature, un être absolument magnifique, absolument captivant, débordant de charisme. Et donc, comment réussir à ce que ça se ressente? Et dans le fond, dans cette BD-là, dans le fond, du moment où Foulou est en scène, il faut que, évidemment, tous les personnages la regardent, mais il faut aussi que le lecteur soit captivé par ce personnage-là, au-delà de ses aspects plastiques. Et je pense, en fait, encore là, dans les choix au niveau des couleurs ou des éléments, on réussit à rendre un regard qui est pénétrant, on réussit à la rendre captivante par sa présence, au-delà de son esthétique. Et Rissot réussit à relever ce défi-là dans la création de ce personnage-là, parce que du moment où il ne réussissait pas ça, il n'y a rien qui marche dans Foulou. Mais s'il réussit, si le pari est là, on est capable de se placer dans les situations, on est capable de peut-être un peu mieux suivre, saisir, accepter tout ce qui se passe. Tu parlais de réalisme magique en introduction, on est un peu là-dedans aussi avec ça. Mais on est capable de l'accepter parce que ce personnage-là est réussi, parce que Rissot maîtrise assez les choix de l'esthétique, le noir et blanc et le reste, pour nous amener là.
Mais quand il pense à ce personnage-là par rapport aux autres qui l'entourent, duquel juste le faciès, on est capable de voir l'âme, pour reprendre l'expression d'Edouard, dans la plus pure tradition de... un personnage, on doit pouvoir voir ses intentions du premier regard pour le lecteur ou quelqu'un qui voit un film, peu importe. T'sais. Mais elle, quand il pense, elle est très illustrée de manière un peu plus abstraite par rapport aux autres. Le regard souvent moitié dans l'ombre et plus un corps qui se déplace à travers les cases d'une manière déjà sensuelle d'où on voit la maîtrise du trait de crayon. Donc, effectivement, comme tu le dis, Raymond, c'est un peu comme Aïcha. Les adaptations qu'on en a faites ne fonctionnent pas parce que on la montre alors que, dans le fond, c'est une abstraction pure. Comment se fait-il que les gens qui la croisent en perdent tous leurs moyens? Et c'est là que le noir et blanc, effectivement, sert justement
très bien. Et beaucoup plus, c'est fascinant, le noir et blanc. Quand Édouard a mis le titre au programme, là, je m'étais dit, mais c'est pas en noir et blanc. Parce que Foulou, la première parution de Foulou était dans la collection Graphica en 4 tomes, et c'était en couleur. Là. C'est juste parce que Glénat voulait faire des intégrales à moyen coût. Ils ont décidé de faire des intégrales en noir et blanc. Et quand tu es arrivé et tu as mis à notre disposition les albums, j'ai dit « Ah oh, oui, je me suis rappelé que c'était en noir et blanc pour cette collection. » Et là, j'ai relu. Et effectivement, il y a... Ça, et Risso, contrairement à peut-être Hugo Pratt qui travaille... qui a travaillé pendant des années son noir et blanc pour Corpo Maltese et qui a décidé de faire de la couleur, de l'aquarelle, des versions colorées. Les deux n'allaient pas, c'est-à-dire que la version noir et blanc, la couleur ne fonctionnait pas et le noir et blanc, quand il travaillait pour la couleur, quand il faisait juste le noir et blanc, ça faisait... Mais dans le cas de Risso, ça fonctionne, mais dans ce cas-ci, ça fonctionne extrêmement bien. C'est-à-dire que... tout l'aspect de la race, de la couleur pour Toulou, l'Afrique et tout, ben quand ça arrive en noir et blanc, c'est noir, noir. Elle est noire, là. Toulou, elle est envoûtante par rapport à la version couleur et tous ces effets de lumière, d'ombre. Parce que là, elle est dans un pays où là, la lumière est importante, la chaleur. Et là, le noir et blanc bien accentuer tous ces effets-là sur ce personnage mystérieux-là. Bref, c'est vraiment un joli accident. L'album-là en noir et blanc, c'est vraiment un joli accident. Je ne sais pas si c'était voulu de la part de Glénat, cette collection-là intégrale, tous les albums étaient en noir et blanc, mais dans ce cas-ci, c'était vraiment un joli accident.
Oui, parce surtout que dans le contexte.
A travaillé avec Azzarello longtemps pour la couleur. Tout en couleur, les comics, en tout cas, ils ont souvent travaillé. L'album en noir et blanc que j'ai vu, c'était Simon, l'aventure américaine, où il racontait l'histoire d'un jeune homme pendant la guerre de la Révolution américaine. Et là, Risso travaillait beaucoup sur l'élément lumière, le jour, la nuit. Mais là, dans cet album-là, c'est magistral comment ça fonctionne pour raconter cette histoire-là.
Puis il y a une richesse, en fait, dans le noir et blanc de Risso. Tu sais, on parlait de Frank Miller qui s'était illustré un peu là-dessus. Tu sais, pour moi, Risso, je veux dire, j'ai pas une énorme culture de cet auteur-là, mais ce que j'ai vu de lui tournait toujours autour un peu du noir et blanc, aussi dans son jeu des noirs très présents, de la dichotomie entre les deux. Donc, pour moi, ça allait un peu de soi qu'on retrouve ça en noir et blanc. Pour moi, ce n'est pas une surprise que ça fonctionnait parce que Risso, dans ma tête, en fait, dans mon esprit de néophyte, peut-être un peu en comics, entre autres. Là. Donc, pour moi, c'était quelqu'un de noir et blanc et même à la limite de découvrir a posteriori qu'il y avait de la couleur. Dans le fond, je me disais, quand je suis tombé sur cette information-là, ben, pourquoi on en avait mis au départ? Tu sais, pourquoi on s'était imposé cette couleur-là? Alors qu'à la limite, quand on va comparer un peu les planches, tu te disais tantôt, Marco, et je trouve que l'album fonctionne parfaitement bien comme ça et n'a pas besoin de couleur.
D'autant que Risso vient d'une tradition, écoute, de BDiste argentin, d'un talent de toute façon renversant, et ce son, et Marco le confirmera parce que de toute façon, il m'a fait découvrir à peu près 98% d'entre eux, je veux dire, le talent extraordinaire de ces gens-là. J'ai même, au point où j'ai presque fait sauter le thème de saturation tellement j'avais envie de plugger le père Amos de Alberto Breccia, on aura la chance de revenir. Mais il y a dans cette école argentine-là des maîtres du noir et blanc, mais de l'encre, justement, là, de ce côté justement tranché que j'adore. Et Risso, avec Trillo, et comme je dis, faudrait que je remette la main sur ces histoires gothiques, notamment pour Jérôme. Ça me fait beaucoup penser à celle que tu avais mis quand on avait fait la thématique d'Halloween, un peu. Il y a plein de
petites
histoires courtes, noires, en tout cas noir et blanc.
Et on peut les réécouter sur lavieenbd.com.
Ben voilà, mais en tout cas, parenthèse à part, tu vois, vraiment, là, les Argentins, là, aller gratter, c'est extraordinaire.
L'idée, c'est que Risso, il travaille en aplat, il n'y a pas vraiment de traits de contour, et ces noirs n'ont pas de dégradé. Ces noirs sont noirs, peu importe à la... Alors, à y réfléchissant, puis en me rappelant la lecture de Foulou, mais aussi surtout de la portion comics de Risso avec Azzarello, je me rappelle qu'effectivement, quand il est en couleur, c'est noir. Les couleurs, ça va, mais quand c'est noir et il lésine pas sur ce noir-là. Et son noir est noir. Pas de dégradé, pas de gris, pas de, d'ombre, d'effet d'ombre. Non, tout est noir et en aplat. Et là, à bien y penser, puis à force d'en parler, c'est pour ça que ça marche en noir et blanc dans son temps.
Il y a une richesse de son trait. Quand tu regardes là, par rapport aux autres auteurs qu'on a vus, ça m'a semblé être lui qui exploite le plus les types de traits différents, puis tout semble couler. On a presque l'impression, en regardant une case, de le voir dessiner. Donc, même le noir et blanc a maintenu l'illusion de l'artiste qui travaille. Ce qui aurait peut-être... En tout cas, j'ai trouvé vraiment là, qu'il y avait beaucoup de choses là, dans une seule case au niveau des traits. C'était absolument hallucinant à voir aller là, dans cette bande dessinée-là. Là.
Puis dans le contexte d'une histoire aussi, on n'en parle pas parce qu'on est captivé par le visuel, parce que le thème apporte à ça aussi, mais je veux dire, d'un point de vue narratif, il y a une belle richesse aussi dans ce qui est proposé. Je veux dire, il y a un intérêt, c'est les enjeux, les réflexions. C'est sûr qu'il y a, c'est une BD aussi très... Il y a beaucoup de sexualité à l'intérieur de ça aussi. Ça tourne beaucoup autour de l'attraction, de l'attirance. Je veux dire, c'est vraiment intéressant sur tous les points. Là, très, oui, ça...
Oh, il y a une densité dans cette histoire-là. Là, je veux dire, c'est toute une épopée. Là. C'est vraiment quelque chose à plein de niveaux, à plein à plein d'intrigues aussi entremêlées, hein, tout ça en arrière, justement, du trait, d'unification, qui est cette recherche que Foulou. Autant d'éléments, en fait, de richesse qu'on ne retrouvera pas dans Billy Wilde de Griffon. Parce que c'est pas le but non plus, je pense, quand même.
Quel dessin, par exemple?
Oui. On connaît Griffon, d'ailleurs. Bon, si vous vous souvenez d'Apocalypse sur Carson City, ouais. Qui était, je veux dire, du B bien assumé, une ride complètement éclatée, qu'un paquet de caméos, trucs comme ça. Et donc, Griffon, ça fait écho aussi à quand je parlais de Label avec Raymond, ouais. dans une carte blanche. Hein. Je veux dire qu'il y a justement des gars comme ça qui... assume très bien que, je veux dire, ce qu'ils font, justement, c'est pas quelque chose d'aussi dense et d'aussi profond et d'aussi touchant que peut l'être Foulou, qui est bouleversant quelque part. Mais, mon Dieu, oui, que ça marche. Le dessin, le côté, justement, encore une fois, justement, comme Rissot, pas de gris, c'est noir, c'est blanc, t'es dans l'ombre ou la lumière.
C'est gothique comme BD.
Extrêmement.
Surtout dans le type des personnages, dans les faciès exagérés, la tension, les
côté,
corps. Les...
C'est ça, tu sais, grand guignolesque à tout ça, là, qui donne vraiment... Il y avait du côté coréen un titre qui s'appelait Priest, qui est un peu dans le même genre, une espèce de western surnaturel avec des démons et tout. Et Dieu sait que ça peut tomber assez facilement dans le Wild Wild West style, dans le mauvais côté de ce que ça peut amener. Mais quand ça reste justement avec ce côté foncièrement sombre, foncièrement...
Il ménage ses effets quand même, là, Griffon, là-dedans. Je veux dire, la montée vers le surnaturel avec l'apparition du diable, là, tel qu'on la voit vers la fin, il ménage quand même ses effets. T'sais, il y a une certaine mystique qui maintient jusqu'à la toute fin, malgré tout. Mais son dessin nous fait voir que cet univers-là du Dark West, comme il l'appelle, l'état du Dark West, fonctionne très bien là, avec les villages... Les villages qu'il met en scène, qui ont des maisons improbables pour le Far West, mais en même temps, il y a cette touche d'architecture qu'on reconnaît, mais ils sont imposantes, là, comme, tu sais, il y a une église qui est imposante comme une église gothique là-dedans, puis sur laquelle grimpe Griffon comme le Billy Wilde, tu sais, pour pogner ses adversaires qui représentent tous, qui sont tous eux-mêmes pratiquement des démons en soi, de la manière dont ils sont dessinés, présentés et tout ça. Là, c'est...
En fait, il y a une adéquation à tous les niveaux, j'ai l'impression, ouais. dans le type d'histoire qu'on veut raconter, dans la manière dont on place le décor, l'architecture, les lieux, dans la manière dont les personnages s'intègrent un peu là-dedans, puis dans la manière où l'histoire se construit aussi. Il y a un côté peut-être un peu chaotique aussi à l'intérieur de ça qui en ressort, mais je veux dire, tout est en adéquation et ça fait, pour moi, ce genre de BD-là, c'est un peu un trip, c'est une expérience aussi. Oui. Au-delà d'un récit purement narratif, il y a un côté expérientiel qu'on que moi, je ne peux pas mettre de côté. Là. Puis même, à la limite, c'est peut-être d'abord ce que je vais vivre en lisant un truc comme ça.
Le qui est absolument magnifique, là aussi. Hein, mm-hmm. Cette trouvaille-là, de le type se promène dans sa... avec son chariot, puis il suffit juste d'ouvrir une trappe dans le fond, puis tu descends aux enfers. Puis là, évidemment, il se laisse aller dans des décors complètement différents du sud du Far West, dans lequel même la nature est démoniaque, là, finalement. Hein, quand tu nous présentes les oiseaux, les animaux, on ne sait pas s'ils sont naturels ou s'ils sont démoniaques. C'est vraiment tout un western, là, ça. Là.
Mais pas loin de ces... On sent bien qu'il s'est inspiré de Léoné aussi avec ses close-ups, ses gros plans, cette façon de raconter. Là, et il ne ménage pas ses effets dans ce sens-là. Là. On sent qu'il y a quand même l'intention de raconter un western à la façon de Léoné. Et il ne ménage pas ses effets. Moi, j'aime bien quand arrive une espèce d'intensité noir et blanc, mais on remarquera le contour blanc, il y a un espace blanc entre le personnage et le décor quand arrive le temps là, de mettre de l'émotion. Là, c'est un peu ce que faisait c'est un peu ce que fait au Japon avec le trait un peu pour marquer des émotions, pour dire ah oui, ça c'est. Alors lui, il l'utilise comme pour Léoné faisait pour ses gros plans, puis cette façon de raconter pour marquer les moments intenses. Alors lui, il a trouvé sa façon à lui. Qui n'est pas nouvelle, là, ça a déjà été utilisé, mais je pense que là-dedans, ça affirmait encore plus le démarquage entre certains moments et d'autres plus intenses, là où il va nous amener dans le surnaturel. Puis,
mais là, hein, comme dans justement Apocalypse sur Carson City, je veux dire, Griffon est un type qui a une vision cinématographique de la BD et qui, justement, tu l'évoques bien, là, ressort comme elle ressortait. Je veux dire, dans Carson City, c'était clair que c'était un film de Robert Rodriguez. Là, je veux dire, la façon dont il présentait les personnages, l'action, c'est ça que c'était. Et je suis content que tu lignes parce que je trouve qu'encore, c'est ça, tu sais, dans BY, ben, c'est la même chose. Il reste encore dans cette vision très, très, c'est ça, très cinématographique et comment il va aller la transposer dans une BD avec les modes et les possibilités qu'offre la BD.
Les personnages tels qu'ils les présentent, ça serait difficile de le faire au cinéma.
C'est facile. Autrement que par de l'animation, ça serait pas faisable.
Oui, c'est ça. Là, je parle de cinéma avec des acteurs. Là, ces faciès-là, ces dimensions-là de personnages, presque tous des grands maigres, sauf le diable. Donc, c'est juste ça, pour moi, cette BD-là, t'es jouissée.
Ça donnerait Spawn. Ça donnerait le vieux film de Spawn.
C'est le genre de choses que je ne peux pas transposer, à moins de faire un peu comme pour revenir à Sin City, de dire OK, on prend puis on reproduit en noir et blanc exactement ce qu'il y a à l'écran. C'est pas quelque chose qui peut être adapté, c'est quelque chose qui peut être transposé parce que, je veux dire, il y a une logique intrinsèque à tout cet album-là qui est là du début à la fin sur tous les aspects de l'album. Et un peu comme, pour reprendre le parallèle de Sin City, ben, si tu décides de le transposer d'un médium à un autre, tu ne peux pas perdre ces éléments-là parce que ils sont nécessaires dans la construction de l'ambiance, de l'esprit, de la logique, de l'esprit même de ce monde-là.
C'est tout le problème de l'adaptation. Je veux dire, je l'ai toujours dit, moi, ce qui fait la différence en BD, je veux dire, si on prend Bruno et Nuri avec Tyler Cross, si tu décides d'en faire une adaptation au cinéma, ça va juste être un bon film de police. Là. Parce que ce qui fait la différence, c'est le dessin, c'est la façon de... Et la même chose avec Billy Wilde. Billy Wilde, c'est un western horrifique d'horreur, mais au cinéma, ça ferait un bon film western d'horreur. Mais ce qui en fait la particularité, c'est le dessin. Ça sera toujours ça. Dans le cas des super-héros, c'est facilement adaptable là, maintenant avec la technologie et tout. Ça se transpose parce que au niveau du dessin, on s'accorde pour faire plus réaliste, pour qu'on connaisse les personnages.
Édouard a pris, montrait les limites. Spawn, dans les années 90, c'était plus flyé comme dessin, justement.
C'est quand la direction artistique, entre guillemets, est très, très, très forte, je veux dire, sur certaines lignes, on a poussé très loin certains aspects, mais ça devient difficile après ça de transposer autre part parce que on peut pas tasser de côté ces choix-là qui prennent beaucoup de place dans le fond dans l'album. Puis je veux dire, Billy Wilde, pour moi, c'est un bon exemple de ça. C'est une direction parfaitement assumée. Puis à la limite, j'ai envie de dire jusqu'au boutiste. C'est-à-dire, il a fait les choix, il a été jusqu'au bout de ces choix-là. Et que ce soit les bons choix, les mauvais choix, je veux dire, à un moment donné, on embarque parce qu'il va tellement jusqu'au bout, parce que sa logique se tient, parce qu'il s'est donné les ingrédients pour que ça se tienne, qu'on finit par embarquer, peu importe l'état dans lequel on était au départ, là, t'sais.
Et c'est, je pense, ce qui, encore une fois, relie justement le noir et blanc de ces quatre BD-là. Comme disais, au-delà bon, de tout ce qu'on a parlé de l'intention et du manichéisme et de tout le reste, c'est que ce noir et blanc-là, même si, bon, dans le cas de Foulou, c'est un heureux hasard, et même dans le manga où ils n'ont pas le choix, ça reste, à mon avis, quand même, à chaque fois, un choix délibéré. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on va, à chaque fois, par cette saturation, par ce contraste-là tranché, c'est comme ça qu'on va aller servir, à mon avis, le mieux, ces histoires-là. C'est comme ça qu'on va aller les magnifier. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai choisi ces quatre-là, parce qu'à mon avis, à chaque fois, c'est ce que le noir et blanc imposait en arrière de tout ça, là. Voilà.
Alors, quatre titres qu'on a eu l'occasion de découvrir ou de redécouvrir dans notre cas et peut-être dans le vôtre aussi à la maison. Alors, je rappelle en fait peut-être les quatre titres que le club de lecture a lus à l'invitation d'Édouard. Alors, je le rappelle donc sous la thématique saturation, ombre, lumière et contre-jour. Donc, on a lu Sin City, le premier tome, The Hard Goodbye de Frank Miller. En français, c'est chez Rackham. On a lu Foulou, donc une version intégrale en noir et blanc qui est rendue disponible chez Glénat, c'est d'Eduardo Risso et Carlos Trio. Billy Wilde, haute intégrale donc de Guillaume Griffon et CK chez Aquileos. Et le Batman Ninja de Masato Ika, en français, c'est du côté de Kana. Alors donc, c'est le club de lecture pour cette semaine, pour ce mois-ci, en fait. Je rappelle les participants également que je remercie au passage. Donc, Jérôme Vermette, merci. Édouard Tremblay, donc notre sélecteur de ce mois-ci, merci beaucoup. Et Marco Duchesne, merci à toi également.
Toujours un plaisir.
Et le mois prochain, ça va être à Jérôme. Je pense que c'est à ton tour de faire la sélection d'avril. Alors, nous, déshabilleras-tu d'un fil? Ce sera la question qu'on découvrira.
Ah, le BD érotique, ça pourrait avoir du potentiel.
Alors, à suivre, côté thématique. Alors, merci beaucoup à vous trois. C'était Raymond Poirier au micro. Je vous souhaite une excellente semaine et un excellent mois pour ce qui est du club de lecture.